Europe 1, il est 8h.
On est vigilant, on fait le maximum. Après, le virus, c'est une certitude, il circule encore.
C'est l'un des plus gros clusters de France. Preuve que le coronavirus n'a pas dit son dernier mot. Les ouvriers agricoles qui alimentent notre économie et nos assiettes sont dépistés en ce moment dans les Bouches-du-Rhône. L'industrie française face à un scénario noir, la destruction de 460 000 emplois, pire que le choc pétrolier de 1974, si le soutien public n'est pas à la hauteur. Pour l'hôpital, les 6 milliards d'euros discutés en ce moment seront-ils suffisants? Certains soignants doutent de la sincérité du gouvernement.
On est assez désespéré par la situation qu'on vit au quotidien. On nous a menti, il n'y a pas de monde d'après. On nous a menti.
Dans ce journal, un entre-deux-tours de 3 mois et demi et les résultats des municipales dimanche avec plusieurs grandes villes qui pourraient basculer écologistes. Et puis, qui les a réveillés ce matin à 6h26? C'est un Boeing 737-800. Les riverains d'Orly ne rêvent ni du monde d'après, ni de celui d'avant, mais du monde de pendant le confinement.
Une fois qu'il n'y a plus d'avions, c'est plus que supportable, on est dans une belle ville. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit plus jamais comme avant.
Après ce journal, le ministre de la Santé sur Europe 1, en direct, Olivier Véran, au micro de Sonia Mabrouk. 8h30, ne vous abstenez pas, venez discuter du vote de dimanche de son organisation avec Sophie Chaumont, directrice de la vie civile et de la citoyenneté à Montauban. Inscrivez-vous, irez-vous voter, vous nous le dites sur le hashtag Europe 1. 8h45, Nicolas Canteloup et la revue de presse. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, François Geffrier.
Quand s'arrêtera la litanie des plans sociaux et des prévisions alarmistes en matière d'emploi? L'onde de choc de la crise du coronavirus paraît chaque jour plus diffuse.
L'industrie française a publié cette nuit des chiffres vertigineux, Emmanuel Duteil. Les comparaisons sont historiques.
463 000 postes pourraient être détruits dans l'industrie d'ici à 2022 par la crise du Covid. Le seul mois de mars aura plus de conséquences que le choc pétrolier de 1974 ou la crise financière de 2008. Si on regarde sur le premier semestre, c'est du jamais vu depuis la guerre de 1945. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par PwC, un grand cabinet d'audit pour le monde de l'industrie. L'ensemble du secteur industriel a été très touché. La production dans le secteur du transport, par exemple, a reculé de près de 70%. Pendant le confinement, baisse de plus de 60% pour les équipements électroniques. L'industrie française est la plus impactée d'Europe et ça ne devrait pas rentrer dans l'ordre tout de suite. Le secteur s'attend à vivre plusieurs semestres compliqués. C'est ce qui explique que c'est dans ce secteur que le plus d'emplois devraient être détruits par la crise en France. Plusieurs plans d'aide sectoriels, comme celui pour l'aéronautique, ont été lancés par le gouvernement. Des mesures de chômage partiel sont aussi créées. Le but, sauver ce secteur et tenter de limiter au maximum les licenciements.
Pour que la machine industrielle soit dégrippée, encore faut-il que le coronavirus cesse de planer. Telle une menace difficile à évaluer. Certes, il y a le nombre d'hospitalisations toujours en baisse, mais ce matin, on compte encore 77 clusters en cours d'investigation en France.
Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, 277 cas de contamination recensés en un mois parmi les travailleurs détachés qui œuvrent dans les champs. Déjà 6000 tests réalisés pour dépister et isoler, notamment à Tarascon, Nathalie
Ils
Chevance.
Ils sont roumains, portugais, espagnols et se présentent spontanément pour se faire dépister.
L'important, c'est pour les familles, pour les enfants, pour nous, pour la santé.
Je ne sais pas si je suis positif, je ne sais pas.
Car seuls les travailleurs détachés déclarés négatifs au Covid pourront être embauchés, protocole nécessaire pour stopper les clusters dans la cinquantaine d'exploitations de la région. Anne Lagadec, secrétaire générale de l'ARS PACA.
On intervient donc en masse pour travailler autour de cette population où les gens sont en contact les uns des autres puisqu'ils sont soit dans des hébergements collectifs, soit ils utilisent les mêmes véhicules pour se rendre dans les exploitations. On est vigilant, on fait le maximum. Plus on repère en amont, plus on arrive à isoler, plus on arrive à contenir. Après, le virus, c'est une certitude, il circule encore.
Et ces clusters dans les champs inquiètent aussi la population locale qui, du coup, en profite pour se faire dépister.
On était en contact avec quelqu'un qui est positif. Et c'est pour ça qu'on vient se faire dépister.
Ah oui, bien sûr. Nous, on tourne dans les champs aussi. On passe à travers la campagne. Quand vous voyez tous ces saisonniers, il faut se protéger. On fait peur quand même.
Mais d'après l'ARS, les clusters dans les champs seraient sous contrôle. Tarascon, Nathalie Chevance, Europe 1.
En Ile-de-France, 1 300 000 personnes vont se voir proposer un dépistage pour repérer d'éventuels foyers dormants de l'épidémie. Annonce du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui est l'invité d'Europe 1 ce matin.
Il aura l'occasion de répondre à ce cri du cœur de Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, pas convaincu par l'enveloppe de 6 milliards d'euros annoncée par le gouvernement pour l'hôpital.
Si j'avais à interpeller le ministre, je lui dirais que l'une des choses les plus importantes est d'augmenter le salaire des personnels dits non médicaux. Deuxièmement, d'arrêter les fermetures de lits, les restructurations, parce qu'il faut redonner des capacités aux hôpitaux pour travailler. Enfin, on est vraiment dans un sale état, quoi, et on est assez désespéré par la situation qu'on vit au quotidien.
On nous a menti, il n'y a pas de monde d'après. On nous a menti.
Patrick Peloux, au micro européen de Romain Hoquet. Le ministre de la Santé sera donc en direct ici même dans quelques minutes. Et c'est sur Europe 1 et vous interviendrez si vous le souhaitez sur le hashtag Europe 1. La grève a été reconduite hier soir à BFM TV, RMC et les autres médias du groupe Next Radio TV.
Mouvement jusqu'à lundi matin contre le plan de suppression d'un tiers des postes. Mais le débat entre les trois candidates finalistes pour les municipales à Paris a pu se tenir 24 heures après la date prévue. Dimanche, c'est dans près de 5000 communes que l'on va voter pour le second tour. Claudia Bertram, Europe Écologie Les Verts espère rester sur sa lancée.
Dimanche soir à 20h, les yeux seront rivés sur les scores des écolos. Ils pourraient décrocher plusieurs grandes villes comme Tours et Besançon. À Lyon ou Bordeaux, les Verts ont aussi fait de bons scores, mais malgré le rassemblement de la gauche derrière eux, ils ne sont pas sûrs de gagner. Ils font face à des alliances inédites mêlant LR et LREM. Malgré ces accords, le parti présidentiel a peu de chances de décrocher une grande ville. Il n'y aura pas beaucoup de scalps, mais le mouvement n'a que 3 ans, défend une ministre. Parmi les possibles surprises de ce scrutin, la droite, bien placée dans les municipales, pourrait néanmoins perdre Marseille. Les socialistes sont malmenés à Lille et il n'est pas exclu que le RN décroche une ville de plus de 100 000 habitants avec Perpignan. Mais la grande inconnue de ce scrutin, c'est la participation. Elle s'est effondrée en mars. La propagation du Covid-19 a dissuadé plus d'un électeur sur deux d'aller voter au premier tour.
Cette information du service police-justice d'Europe 1, un homme de 25 ans en garde à vue après la collision qui a provoqué de très graves blessures. Un enfant de 5 ans, c'était lors d'un rodéo à moto. Mercredi soir, à vous Envelin.
Europe 1. Vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, une ferme d'imprimantes 3D déployée pour l'armée de terre française.
Et puis tiens, les voisins sont revenus. Les riverains d'Orly, de nouveau survolés par des avions depuis ce matin.
A tout de suite.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal. François Geffrier, Mathieu Béliard.
Et ce matin, gros plan sur une innovation française au sein de l'armée de terre.
Oui, des imprimantes 3D installées par dizaines au sein de l'école militaire de Bourges depuis quelques semaines pour produire des pièces en tout genre. Pour l'armée donc, une première. Pourquoi faire exactement? Simon Rubin en reportage sur place.
Dans un vaste hangar, 50 petites imprimantes cubiques tournent à plein régime. En ce moment, la production est concentrée sur la lutte contre le Covid. Support de masques de protection en plastique, cale-porte, petits crochets pour ouvrir les portes sans toucher les poignets. En un mois, le parc a fabriqué plus de 60 000 objets de ce genre. Mais au-delà de ça, ces imprimantes vont surtout permettre à l'armée de fabriquer des pièces de rechange, comme pour des véhicules. Le lieutenant Nicolas Rousier prend l'exemple d'un blindé touché en opération. En 20 minutes, la pièce abîmée est réparée.
Quelque chose vient abîmer la durite, le véhicule est indisponible. Avec la technologie 3D, on peut remplacer la pièce, poursuivre et continuer la mission avant d'effectuer la réparation définitive.
Oui, c'est de l'appoint.
C'est de l'appoint, voilà, qui permet surtout d'aller au bout de la mission.
Avec les imprimantes 3D, on gagne du temps et aussi de l'argent. C'est beaucoup moins cher à produire. Évidemment, il s'agit de ne fabriquer que des pièces secondaires. Pas question, par exemple, de fabriquer des armes. À terme, l'idée est d'envoyer des imprimantes 3D de ce genre sur les terrains d'opération, comme au Mali, où des tests concluants ont été effectués.
Cela arrive habituellement 600 fois par jour. Mais ce matin, c'était tout un événement. Un vol commercial au départ d'Orly, à tel point que l'avion de Transavia pour Porto a été arrosé par les pompiers. C'est un honneur à retrouver en photo sur Europe1.fr.
Une douche froide aussi hein, pour les 500 000 riverains de l'aéroport. Ce premier vol depuis 3 mois à Orly. Élise Dangean, ces riverains qui s'étaient habitués à un tout autre environnement sonore.
Nos amis les oiseaux s'en sont donnés à cœur joie. Là, ils n'avaient aucune concurrence, alors ils se sont lâchés. C'est vrai que sans les avions, c'est idyllique comme quartier.
Pendant 3 mois, le chant des oiseaux a remplacé celui des réacteurs pour le plus grand bonheur de Nathalie, qui vit à Sucy-en-Brie depuis 15 ans. Dormir 1 heure de plus, déjeuner dans le jardin sans que la conversation soit interrompue par le bruit des avions, une parenthèse à laquelle tous ici ont pris goût, et notamment Luc Offenstein, vice-président du collectif des riverains de l'aéroport d'Orly.
Cette période, on l'a vécue comme une période qu'on n'osait même pas imaginer. Je vais vous dire, c'était même pas imaginable. Ça fait des années que je me dis, on ne va pas continuer à vivre sous les avions, comme ça c'est insupportable. Une fois qu'il n'y a plus les avions, c'est plus que supportable, on est dans une belle ville. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit plus jamais comme avant. Voilà.
Avant, c'était au bas mot un avion toutes les 3 minutes, de 6h à 23h, 365 jours par an. Mais la direction d'Orly se veut rassurante, le trafic va reprendre très lentement. insuffisant pour les riverains qui rêvent de calme et de chants d'oiseaux.
Voilà, le chant des oiseaux, ça détend tout le monde le
petit
matin.
Oui, bah je pense que c'est un peu dur pour les riverains. Après, certains sont contents, on les a entendus de reprendre l'avion ce matin en direction du Portugal ou de la Corse éventuellement. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h. À 8h12, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour à tous. Les réponses de notre invité sont très attendues ce matin. Des sujets majeurs portés par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h15, la matinale, Mathieu Béliard.
Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Olivier bonjour. Véran. Face à une résurgence du virus, la France est-elle prête ?
La France se prépare avec un plan en 4 piliers, très rapidement. D'abord préparer les hôpitaux. Nous sommes capables, s'il y avait une deuxième vague, d'ouvrir jusqu'à 12 000 lits de réanimation contre 5 000 en temps normal et 9 000 pendant la première vague, et d'accueillir jusqu'à 30 000 malades en réa, avec médicaments, respirateurs, équipes, contre 17 malades que nous avons accueillis au cours de la première vague. Nous avons un plan pour protéger les publics les plus fragiles, les personnes précaires, isolées, les personnes en EHPAD, et nous avons également un plan pour pouvoir réaliser le fameux testing, tracing, isolement.
Vous excluez un reconfinement généralisé ?
Nous ne voulons pas cette solution du
Elle
confinement.
Elle est donc exclue.
Nous sortons le 11 juillet de l'état d'urgence sanitaire, ce qui fait que nous ne pourrons plus, nous n'aurons plus les moyens légaux de procéder à un confinement généralisé. On voit chez certains de nos voisins un confinement localisé qui peut être mis en place sur une durée pour l'instant assez courte lorsqu'il y a des clusters avec une dissémination du virus, de peur que ça échappe. Mais la limitation des grands rassemblements, les mesures que nous avons maintenues malgré tout dans la loi, et puis surtout cette dynamique, vous savez aujourd'hui c'est plus le virus qui nous traque, c'est nous qui le traquons. Avec seulement 1% des tests que nous réalisons qui sont positifs, avec des indicateurs pilotés heure par heure sur tout le pays. Et donc nous mettons tout en œuvre pour ne pas avoir à procéder à un confinement tel que la France l'a connu et tel que les trois quarts de la planète l'ont connu.
Dont une vaste campagne de tests massifs dans les zones à risque d'abord en Île-de-France. Mais pourquoi, monsieur le ministre, vous ne l'avez pas fait plus tôt ?
Une campagne de tests massive. Nous avons réalisé des campagnes de tests massives. Vous savez, au quotidien, il y a ce qu'on appelle des barnum.
Ça dépend ce que vous appelez massif. Quand barnum, on compare avec d'autres pays, ce n'est pas le cas.
Un barnum, c'est une opération de test qui est réalisée, par exemple, au centre d'une ville, ou au pied d'un immeuble, ou dans un gymnase, où nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent, même sans symptômes, à venir se faire dépister. Il y en a des dizaines et des dizaines qui sont réalisées chaque jour. Et avec 1% de tests positifs, ça veut dire que 99% des gens que nous testons n'ont pas le coronavirus. En termes de maille, on est dans quelque chose qui est déjà très serré. Mais l'opération que j'ai annoncée consiste à envoyer des bons de l'assurance maladie chez les gens, dans 30 communes de France et d'Île-de-France, 1 300 000 personnes, pour leur proposer, s'ils le souhaitent, on ne va pas les obliger évidemment, à pouvoir bénéficier d'un test sans prescription.
Mais je répète la question, pourquoi
remboursé.
Vous ne l'avez pas fait plus tôt, cette opération que vous décrivez ?
Cette opération massive en milieu asymptomatique, nous la faisons en tirant le constat qu'il y a des clusters, qui sont des clusters sans dissémination communautaire, c'est-à-dire limité à quelques milieux professionnels, et nous voulons regarder quel est l'impact autour. Il y a un aspect recherche, un aspect épidémiologique et un aspect veille sanitaire.
Est-ce que vous n'aviez pas, monsieur le ministre, les capacités en test ? Ou est-ce que vous assumez de ne pas avoir utilisé, de ne pas utiliser aujourd'hui à plein les capacités de test de la France ?
Sonia Mabrouk, aujourd'hui, les laboratoires privés, rien que les laboratoires privés, nous disent être en mesure de faire 150 000 tests par jour. Il n'y a pas de pénurie d'écouvillons, de cônes.
Et combien on en fait concrètement dans les faits ?
Il y a 250 000 tests qui sont réalisés par semaine.
Toutes et les par jour, monsieur le ministre ? Et par jour
250 000 divisé par 7.
Toutes les personnes... Donc ça reste insuffisant si on compare par rapport à d'autres pays. C'est souvent la remarque qui revient.
J'étais hier avec le ministre allemand de la Santé. Nous comparions les capacités de tests. Ils ont une capacité théorique d'1 million par semaine. Nous avons une capacité théorique d'1 million par semaine. À moins d'aller chercher les gens chez eux et de les contraindre à avoir un examen, ce que, évidemment, on n'a aucun intérêt et aucune volonté de faire, on en est là aujourd'hui à ce qu'on n'est pas à saturation de nos capacités de test. Les laboratoires privés nous disent pouvoir en faire 150 000 par jour. Si la situation devait s'aggraver et qu'il devait y avoir davantage de virus et que le taux de positivité des tests remontait, nous serions en mesure de réaliser plus de tests. On ne va pas contraindre des gens, mais regardez, on va jusqu'à les inciter en leur envoyant des ordonnances chez eux alors qu'ils n'ont rien demandé.
Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des millions de tests PCR qui sont inutilisés dans les laboratoires et bientôt inutilisables, car périmés, vous le confirmez ?
Nous avons des stocks de réactifs, des stocks de cônes, je vous confirme qu'on
des
est en mesure...
Des millions de tests, bon pour la poubelle ?
Non, pas bon pour la poubelle du tout. Nous avons des millions de tests qui sont stockés dans notre pays au cas où il y aurait une résurgence épidémique. panique, de manière à ce que vous ne me posiez pas dans 3 ou dans 6 mois ou je ne sais quand la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas préparé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de stock de tests.
Monsieur le ministre de la Santé, le gouvernement doit la vérité aux Français, évidemment, sur la gestion de la crise. Est-ce que vous excluez tout soupçon de collusion entre les intérêts du laboratoire Gilead et des membres du conseil scientifique ?
Moi, je n'aime pas les accusations ad nominem. Et je considère que les membres du conseil scientifique ont fait une action gratuite depuis plusieurs mois maintenant dans notre
pays.
Vous
en êtes sûr ?
Ont été importants.
Qu'il n'y a pas de soupçons de conflit d'intérêts ?
Moi, je suis sûr qu'ils n'ont pas été payés par le gouvernement ou par qui que ce soit pour réaliser leur action au sein
du
conseil scientifique.
C'est pas la question. Est-ce qu'ils ont des liens financiers avec des laboratoires ?
Sur une accusation comme celle-ci, je vais prendre le temps de vous répondre, Sonia Mabrouk. Moi, je suis médecin hospitalier au service du service public hospitalier. Je n'ai jamais été payé par un laboratoire. Ma conviction personnelle et ma pratique personnelle, elle est que je pense qu'il faut revoir encore davantage les liens entre l'industrie pharmaceutique et les médecins. Mais pour autant, aujourd'hui, vous avez un encadrement par la loi qui s'appelle une déclaration publique d'intérêt, qu'ont signé tous les membres du conseil
Monsieur
scientifique.
Monsieur le ministre, non mais attendez, parfois cette déclaration peut être incomplète.
Ce qui veut dire que les déclarations publiques d'intérêt engagent ceux qui les signent et qu'elles sont par définition publiques. Bien. Je n'ai pas d'amitié particulière pour un laboratoire ou pour un autre. Et si vous citez le laboratoire Gilead, par exemple, lorsque j'étais député, vous pourrez voir que lorsqu'il y avait un traitement contre l'hépatite C qui avait émergé, j'avais même convoqué le président du laboratoire pour dire que le prix était excessif.
J'entends bien. Ma question, je vous la répète, concerne les membres du conseil scientifique qui ont quand même géré cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien avec ces personnes et les laboratoires Gilead ?
Je peux vous dire, Sonia Mabrouk, qu'il n'y a eu aucune intention cachée ou directe d'aucun membre du conseil scientifique pour nous pousser à prescrire quelques traitements que ce soit.
Y compris le remdesivir.
Mais y compris le remdesivir. Je n'ai eu aucune recommandation du conseil scientifique sur le remdesivir. Vous savez, je respecte profondément la science. Profondément. Je me suis assez appuyé sur la science. Je considère que la science n'a pas toujours été suffisamment claire dans la période. Maintenant, on a demandé à la science de fonctionner au rythme médiatique et au rythme politique. Or, le temps scientifique n'est pas le rythme médiatique ni le temps scientifique. Je ne laisserai pas non plus salir la science par tel ou tel au prétexte qu'on veut faire valoir ses arguments. Je crois qu'il faut qu'on garde collectivement confiance. La déclaration publique d'intérêt est un élément fondamental d'une loi qui a été adoptée par notre majorité, mais que j'ai soutenue.
Donc vous estimez, monsieur le ministre, avoir pris toutes les garanties pour éviter qu'on apprenne dans quelques semaines ou quelques mois des conflits d'intérêts entre ces personnes et des laboratoires.
Mais nous sommes dans le respect scrupuleux de la loi, et qui dit conflit d'intérêts dit tentative de promouvoir un produit par quelqu'un qui serait payé par un laboratoire. En l'occurrence, chercher dans tous les avis du conseil scientifique, il n'y a pas une ligne qui va traiter de ce traitement, ou alors elle m'a vraiment échappé, Sonia Mabrouk, il n'y a aucune influence, et à l'heure à laquelle je vous parle, aucun médicament n'a reçu le blanc-seing des autorités sanitaires, et aucun médicament des laboratoires qui peuvent avoir des liens d'intérêt, non pas des conflits d'intérêts avec les scientifiques du conseil scientifique, n'est actuellement recommandé ou prescrit.
L'Agence européenne des médicaments vient d'autoriser, justement on en parle, le remdesivir, ce qui en ferait le premier médicament, monsieur le ministre, de ce type contre le Covid. Vous êtes favorable à sa commercialisation en France ?
Moi, je ne vais pas être favorable à une commercialisation. J'attends l'avis de la Commission européenne suite à l'avis de l'Agence européenne du médicament. Ensuite, j'attendrai, comme je l'ai fait pour tous les traitements, l'avis des agences françaises du médicament, la ANSM, le Haut Conseil de Santé publique. Ce que je peux dire, c'est que ce traitement, il a pu montrer une efficacité, mais qui reste extrêmement relative, et qu'à date, hélas, à l'heure à laquelle je vous parle, nous n'avons toujours pas un médicament qui ait fait montre d'efficacité dans la lutte contre le coronavirus, à l'exception d'un très vieux médicament, la dexaméthasone, qui est une forme de cortisone, qui marche dans les formes très sévères hospitalières.
Selon le professeur Raoult, il faut bien parler de lui, vous ne l'avez pas encore
pas
fait,
forcément.
Vous n'avez pas répondu. Ah quand même, il a été entendu, c'est important, les mots qu'il a dit et les accusations qu'il a portées. Selon lui, vous seriez mal entouré, sous influence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la Haute Autorité de Santé. C'est quand même grave comme accusation pour un ministre de la Santé en exercice et surtout en pleine crise sanitaire.
En fait, vous avez tout dit, Sonia Mabrouk. En fait, je suis ministre de la Santé. Je ne suis pas dans le commentaire, encore moins dans l'accusation. Mon seul enjeu, c'est d'assurer la sécurité et la santé des Français au quotidien, jour après jour, nuit après nuit, avec des équipes scientifiques, avec des équipes administratives, en transparence.
Vous n'êtes pas sous influence.
Est-ce que j'ai l'air d'être sous influence ?
Je ne sais pas.
Je vous réponds très tranquillement que non. Et vous rassure par là même si vous étiez inquiète.
Je ne suis pas inquiète. Ce sont des réponses que se posent, je suppose, les citoyens et les Français. Et surtout, les soignants se posent cette question, monsieur le ministre. 6 milliards de revalorisation pour les personnels hospitaliers, médicaux. Est-ce que c'est une somme, une enveloppe qui va être reconduite chaque année ? Elle est importante.
Ah oui, c'est une enveloppe de revalorisation. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité, à travers ce Ségur de la santé, montrer la reconnaissance et la juste valorisation des métiers des blouses blanches qui ont pris énormément soin des Français pendant cette crise et qui prennent soin d'ailleurs en dehors de la crise des Français au quotidien. Il y avait un décrochage du niveau de rémunération des soignants hospitaliers par rapport au salaire moyen. Il y a eu des baisses de budget hospitalier année après année au cours des 10 ou 15 dernières années. Et c'est l'engagement de cette majorité que d'aller soutenir et d'aller valoriser leur action. 6 milliards, c'est beaucoup, Sonia Mabrouk. C'est presque l'équivalent du budget de la justice, qui doit être de 7 milliards ou 7 milliards et demi. Et c'est une revalorisation qui est annuelle et qui n'est pas pour solde de tout compte, puisque nous transformons également l'hôpital, la médecine de ville, le lien entre les deux, le médico-social, les EHPAD. L'ensemble des acteurs doit être concerné. Nous allons parler de santé publique, de prévention, d'organisation des soins, de lits hospitaliers, de financement de l'hôpital. Et nous allons parler également des engagements des soignants, de l'organisation du travail, de manière à simplifier, fluidifier, améliorer la prise en charge des
malades. Mais quand on vous entend, on se demande pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Patrick Peloux dit ce matin « Mais ce n'est pas possible, on est dans un sale état, on est désespéré, ce n'est pas suffisant, votre enveloppe qui va être réparti, vous l'avez dit, monsieur le ministre, entre les hôpitaux, les EHPAD publics et, pour partie, le privé.
6 milliards d'euros, Sonia Mabrouk, d'augmentation annuelle. 6 milliards d'euros.
Vous allez arrêter, monsieur le ministre, la suppression de lits en ce moment et les réorganisations, les restructurations?
J'ai gelé toutes les restructurations. J'ai gelé, toutes les, je l'ai annoncé il y a
plus de deux mois. Et les suppressions de lits?
J'ai annulé, je n'ai pas annulé, mais j'ai gelé toutes les réorganisations du parc hospitalier pendant la crise et jusqu'à la fin du Ségur à minima, le temps de pouvoir discuter justement avec ceux qui font l'hôpital au quotidien, quel doit être le devenir des organisations. Vous savez, je n'ai pas découvert, mais je constate jour après jour qu'il y a des pilotages nationaux qui peuvent être rigides, détachés, éloignés des territoires,
ça,
éloignés de la volonté des soignants.
C'est-à-dire qu'il faut aussi un big bang, j'allais dire, de la technocratie, de la bureaucratie hospitalière, et pas seulement une revalorisation salariale.
Je crois que ça fait l'unanimité dans notre pays, le fait que nous soyons extrêmement jacobins, et qu'il y ait un excès de normes, un excès de bureaucratie, qu'il y ait parfois un mythe de la superstructuration, et que ça ne correspond pas aux appétences du territoire. Moi, je crois à la souplesse, je crois à la flexibilité, je crois que ce ne sont pas des gros mots, au contraire, et à la confiance.
Monsieur le ministre, pour conclure, vous allez laisser tous ces dossiers à votre successeur la semaine prochaine ?
Je ne sais pas, je ne suis pas président de la République et je ne suis pas non plus
Mais vous ne le
ministre.
Souhaitez pas, j'imagine que vous souhaitez les incarner, les porter, et encore.
Ah, moi je souhaite continuer évidemment mon travail. Il est passionnant, extrêmement prenant, extrêmement exigeant, pas toujours simple. Mais c'est aussi un travail qui fait jonction avec ma vocation. Au service de la santé, au service des personnes âgées en perte d'autonomie, au service des plus précaires, je suis ministre des Solidarités. Des personnes qui n'ont pas grand-chose ou des personnes qui n'ont rien, au service des familles. Et c'est une mission qui est, encore une fois, passionnante au quotidien, avec des associations engagées, des citoyens engagés. Et il y a beaucoup de choses à faire.
Alors, on vous dit rendez-vous bientôt.
Bah écoutez, nous verrons.
Merci, monsieur le ministre Olivier Véran, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1.
Les conditions d'organisation du second tour des municipales, on en parle dans quelques secondes. On annonce une forte abstention. Irez-vous voter ? Tiens, dites-le nous. 3921 et le hashtag Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h31. Vous écoutez Mathieu Béliard. Le second tour des municipales se tiendra dimanche. Irez-vous voter ? Et irez-vous voter sereinement ? Vous recevez Mathieu, Sophie Chaumont, directrice de la vie civile et de la citoyenneté à la mairie de Montauban. Et vous posez vos questions sur Twitter. Vous réagissez avec le hashtag Europe 1.
Bonjour Sophie Chaumont.
Bonjour.
En direct de Montauban ce matin. Alors on l'a beaucoup dit, on annonce une abstention record. Elle l'était déjà au premier tour. On annonce encore pire au niveau de la participation dimanche prochain. Pourquoi ? Eh bien pour deux raisons. L'une politique que l'on a évoquée, peut-être un désintérêt pour le scrutin, peut-être qu'on est concentré sur autre chose que sur la politique municipale en ce moment, mais aussi une crainte du Covid parce qu'il y a eu... Il y a eu ce premier tour qui est resté dans tous les esprits. Alors tout simplement, irez-vous voter ? Je pose la question à nos auditeurs. Vous, Sophie Chaumont, votre objectif, c'est de rassurer autant que possible les 40 000 électeurs de Montauban ?
Oui, bien sûr, parce que la configuration du second tour n'aura rien à voir avec celle du premier en termes de sécurité sanitaire, puisque...
On va la détailler justement. Justement, mais avant de parler du bureau de vote en lui-même, déjà,
oui.
Les conditions de procuration ont été assouplies.
Oui, on était jusqu'à présent, un mandataire ne pouvait avoir qu'une procuration établie en France, on est passé à deux, et ensuite, les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, maintenant, elles ont juste à passer un coup de téléphone au commissariat et sur simple appel, un officier de police se rend à domicile pour établir la procuration. Donc ce dispositif-là est allégé aussi. Donc ça peut permettre aux personnes...
Et là, simplement, vous envoyez plus, vous savez s'il y en a déjà plus ou pas des procurations qu'un scrutin ordinaire ? Oui, déjà ?
on a déjà plus, nous on est à plus 100 procurations par rapport au premier tour. Mmh. Et je pense qu'on va atteindre le niveau du second tour de 2014. Donc en fait, par rapport à un scrutin municipal, comme d'habitude, on a à peu près le même niveau de procuration.
Mmh. Je voyais dans les messages que nous recevons, alors Sylvie qui se pose une question, vous n'allez pas y répondre, même si c'est pas loin finalement. Sylvie nous parle de Toulouse, va-t-elle basculer Ville Rose à Ville Verte, l'incertitude est grande ici. J'ai Adeline en revanche, ça nous concerne plus, qui dit: est-ce que je vais aller voter? Oui, moins de risque d'aller voter que d'aller faire des courses, mais c'est pas l'argument évidemment, voter est le seul devoir qui donne des droits. Deux fois de vote en 5 ans, c'est quand même pas la mer à boire, nous dit Adeline. Alors comment rassurer les électeurs? Le dispositif de sécurité sanitaire, déjà aucun contact entre les électeurs et les membres du bureau de vote. Hein.
Oui, c'est ça. Habituellement, les électeurs ont l'habitude de donner leur carte d'électeur et donner leur pièce d'identité au président du bureau pour qu'il puisse vérifier l'identité et le fait que l'électeur soit au bon bureau. Ça, pour ce scrutin, ça ne sera pas possible. Il est demandé à l'électeur de montrer sa pièce d'identité ou sa carte d'électeur au président et aux membres du bureau. Donc déjà, il n'y a pas de contact là-dessus. Et ensuite, pour l'émargement, on invite chaque électeur à venir avec son propre stylo. Si l'électeur n'a pas de stylo, on a acheté un grand nombre de stylos qui nous permettront, dans chaque bureau de vote, de mettre un stylo à disposition de l'électeur qui n'en aurait pas. L'électeur émarge et s'en bat avec son stylo, c'est-à-dire ne le pose pas sur la table, ne nous le laisse pas.
D'accord, soit on vient avec notre stylo, soit on a gagné un stylo en plus du droit de vote ce jour-là. Le masque, obligatoire.
Hein. Oui,
là, il n'y a pas de débat.
Non, c'est obligatoire, que ce soit pour les électeurs, pour les membres de bureau ou même pour les personnes qui viendront assister ou participer au dépouillement le soir. C'est obligatoire pour tout le monde. Là, il n'y a pas de négociation possible. Les membres de bureau peuvent vous demander de façon très brève de baisser votre masque s'il y a un doute sur votre identité. Sinon, on garde le masque. Et pour les membres du bureau, il y a aussi la visière et des protections en plexiglas pour les personnes qui restent toute la journée dans le bureau.
Ce que vous n'aviez pas au premier tour ?
Absolument pas.
D'accord, d'accord. Pour
le premier tour, ce qui nous avait été demandé, c'était uniquement du gel hydroalcoolique à l'entrée et aux sorties.
Bien
sûr. Et un marquage au sol, si on pouvait.
Sophie Chaumont, directrice de la vie civile et de la citoyenneté à la mairie de Montauban, je vous garde avec nous. On va continuer à se projeter dans ce second tour. On va entrer dans le bureau de vote et puis en sortir, voir tout le parcours justement fléché. Hein. On va le découvrir. 8h35.
Europe 1, il est 8h37. Vous écoutez Mathieu Béliard et nous vous demandons si vous irez voter dimanche, si vous êtes serein avant de vous rendre à votre bureau de vote. Sophie Chaumont est votre invitée. Mathieu, elle est la directrice de la vie civile et de la citoyenneté à la mairie de Montauban. Vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1.
Du coup, on parle de Montauban, évidemment. Alors, pas de politique, hein, s'il vous plaît. Évidemment,
non,
Sophie
non.
Chaumont, parce qu'il y a les règles de temps de parole, il faut être dans l'équité absolue. Mais je voyais, voilà, Montauban, 60 000 habitants, 40 000 électeurs, 400 personnes mobilisées pour gérer ces élections entre les bénévoles et les équipes municipales. Alors, je voulais qu'on se projette. On entre dans le bureau de vote. Masque obligatoire, on l'a dit, Sophie Chaumont. Un mètre entre chaque personne.
Oui. Alors, même avant d'entrer dans le bureau, les électeurs seront accueillis par un agent d'accueil qui va être là pour rappeler déjà les gestes barrières aux électeurs, le masque s'ils ne l'ont pas, et réguler les flux. On va éviter qu'on ait trop d'électeurs en même temps dans le bureau de vote. Donc, l'agent d'accueil fera, comme on a eu l'habitude depuis le déconfinement, quand on va dans un magasin, on va laisser rentrer quelques personnes. Dès qu'elles ont fini leur processus électoral, elles sortent par une sortie différenciée, comme ça il n'y a pas de croisement de personnes, et on en laisse rentrer d'autres.
2 à 5 votants en même temps maximum, et puis du coup on ne vient pas en famille voter.
On peut, mais les papas gardent les enfants pendant que maman vote et après c'est l'inverse.
D'accord. Ils ne pourront pas forcément entrer, circuler dans le bureau de vote. Cet apprentissage de la vie démocratique, on le gardera pour un autre scrutin. Un agent d'accueil pour la gestion des flux, ça c'est important.
Tout à fait.
C'est important parce que je me mets à la place de la commune, c'est un budget en plus aussi.
C'est un budget en plus, du recrutement en plus. Nous, c'est l'équivalent d'une 60aine de personnes.
Alors, j'ai vu une mention, je voudrais que vous me la détailliez, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pas bien compris. Les isoloirs seront retournés.
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Ça nous avait déjà été demandé au premier tour. Quand vous arrivez dans un bureau de vote, vous avez l'habitude d'avoir face à vous le rideau de l'isoloir, vous rentrez et vous votez. Là, ce scrutin, les isoloirs seront à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'entrer directement face à vous dans l'isoloir, vous passerez par l'arrière, c'est-à-dire mettons entre le mur et l'isoloir, pour que on puisse laisser le rideau à moitié ouvert et qu'ainsi vous n'ayez pas à toucher le rideau et que pour autant vous soyez caché.
Je comprends mieux. Ça y est, j'ai bien fait de poser la question parce que je comprends mieux. Deux files d'attente aussi. Alors ça, j'ai noté, je ne sais pas si ça se fera partout. En tout cas, chez vous, deux files d'attente avec une file accélérée pour les personnes vulnérables, c'est ça?
Voilà, c'est ça, personne âgée à risque ou vulnérable. Bon, après, nous, on va tout faire pour que vraiment ça aille vite et que les gens ne passent pas trop de temps à attendre. Mais si on a quelqu'un qui arrive en se présentant comme personne à risque, personne vulnérable ou une personne âgée qui ne peut pas rester trop longtemps debout et attendre, la consigne a été donnée de privilégier ces personnes-là et de les faire passer de façon prioritaire.
Sur le hashtag Europe 1, Marie nous écrit « Je n'irai pas voter. Je ne sais pas si c'est lié au manque d'alternatives dans ma ville ou au mépris des protagonistes pendant le confinement. Je ne me serais déplacé que pour contrer un extrême. On ne vote plus pour, mais on vote contre désormais », nous dit Marie. On fait face à ce risque d'abstention massive dimanche prochain et vous essayez de mettre ça en place pour rassurer les électeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je sais qu'à Montauban, vous avez ouvert un bureau de vote témoin, un bureau témoin pour qu'on puisse être rassuré avant d'aller voter. Racontez-nous.
Alors non, le bureau témoin, c'était pas à destination des électeurs de façon physique. C'est qu'on a essayé de privilégier et de rassurer les électeurs au maximum en leur indiquant que nos deux souhaits, c'était que chacun puisse s'exprimer et que chacun puisse le faire en toute sécurité. Donc on a fait une vidéo où on a montré dans ce bureau témoin les différentes étapes, les différents aménagements, les différentes protections pour que sur la vidéo, les électeurs puissent voir ce qu'ils verraient dimanche et être rassurés au maximum.
Bon, ça, on verra si ça a marché. On pourrait presque vous rappeler
dimanche
soir. On va voir si ça a marché. Je vous sens confiante, Sophie Chaumont, sur Montauban. En tout cas, désinfection des locaux, je terminerai par là. C'est important. Alors d'abord, désinfection des locaux tout au long de la journée, ça va revenir à plusieurs reprises.
Tout à fait. On a doté chaque bureau de vote de papier à usage unique et de produits désinfectants et de façon très régulière dans la journée. C'est la consigne qu'on a donnée aux agents qui sont sur place. C'est de nettoyer toutes les surfaces de contact, c'est-à-dire les tables, les chaises, la tablette qu'il y a dans l'isoloir, le dessus de l'urne. Et en plus, avant l'ouverture du bureau le matin et le soir après fermeture, il y a un produit qui sera mis dans chaque bureau qui va agir toute la nuit et qui va permettre que le matin à l'ouverture et après le soir à la fermeture, les locaux soient sains.
Oui, mais j'ai vu en parallèle que dans certains cas, les salles de fête en l'occurrence ou les classes d'école ne serviraient pas forcément après le scrutin pendant quelques temps justement pour rassurer, pour que le Covid, s'il était présent, disparaisse.
Alors, nous, les salles des fêtes sont déjà à l'arrêt, mais elles seront quand même désinfectées. Et les écoles ont fait justement le dispositif pendant toute la nuit pour que lundi matin, les enfants puissent retrouver leur classe habituelle. Ils ont déjà été assez perturbés. Donc, nous, lundi matin à Montauban, ils retrouveront leur classe normalement et ce sera nettoyé, désinfecté sans aucun risque.
Sophie Chaumont, merci beaucoup. On verra dimanche
merci
soir si ça a suffi à rassurer. Tiens, nos auditeurs nous le diront aussi sur le hashtag Europe 1. Sophie Chaumont, directrice de la vie civile et de la citoyenneté à la mairie de Montauban, à deux jours des municipales. Je voulais qu'on fasse ce point justement sur la sécurité sanitaire du scrutin. Merci Sophie Chaumont, 8h42.
Merci, au revoir.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques secondes. Il n'y a pas de suspense, vous le savez. Nicolas Canteloup et la revue de presse, à tout de suite.
Europe 1, 8h45.
Et ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les infos, pour les titres.
Oui, bonjour, bonjour, chère Julie. Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre. L'actualité, ce matin, c'est la réouverture de l'aéroport d'Orly. Et oui, ça y est, enfin, on peut partir à l'étranger, attraper le Covid-19 dans un cluster, justement, étranger. La vie reprend. Et oui, quelque part, c'est une bonne nouvelle. Orly rouvre, donc Booba et Caris vont pouvoir reprendre la boxe. Et puis, l'autre info, c'est Emmanuel Macron qui reçoit François Hollande pour le consulter sur l'après-coronavirus.
Hey, bonjour, même Julie, je suis Béliard. Et oui, voilà, quand les ennuis arrivent, on rappelle le parrain, Don Francesco. Aide-moi, Don Francesco. Et oui, je suis Un peu Marlon Brando. Ben, moi, je suis plus Marlon Brandade.
Oh, s'il vous plaît,
monsieur. Oui, on va dire qu'on peut placer un truc de bouffe pour monsieur Béliard.
Allez-y, monsieur le président.
Et vous savez, je suis magnanime. Bien qu'on m'ait. Piétiné, qu'est-ce que vous voulez? J'ai accepté d'aller donner mes conseils aux gamins, même si en 2012, il m'a manqué de respect. Où est le respect? Mais ne vous inquiétez pas, je vais lui donner mes meilleures recettes. Vous retrouverez bientôt l'âge d'or de mon quinquennat. Oh. Allez, je vous laisse. La France m'attend.
Oui, c'est ça. Merci, monsieur Hollande. À bientôt
en
quand
prie.
Même. Allez. Bon, on reçoit maintenant Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Aux auditeurs qui auditent, aux chroniqueurs qui chroniquent, aux Béliards qui bêlent, aux Cabrols qui cabrent, aux Vandelles qui vendent et aux Julies qui sont si jolies.
Oh, unanimité autour de la table. C'est drôlement gentil, ça. Alors, on voulait vous parler des municipales et de la déroute annoncée pour La République En Marche, il faut bien le dire.
Non mais ça intéresse qui les municipales? Non, mais ça valait le coup vraiment de vous faire un compliment, Mme Julie. Ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fout des municipales. Vous voulez que je vous dise, hein? Paris, c'est Hidalgo qui va gagner. Marseille, ce sera quoi? Ce sera qui? Ben, ce sera le meilleur tricheur qui sera élu, voilà. Hein? Et puis Lyon, voilà, il n'y a pas de suspense. Colomb part en EHPAD, voilà, on a fait le tour des grandes villes. Puis après, le reste, c'est quoi? Ce sont des villages de 30 habitants et puis la réélection de maire de 80 piges dans des villages de consanguins. Voilà.
Donc,
tout le monde s'en fout. Allez, sujet suivant. Mais saoulé.
Sujet suivant, bah écoutez. Sujet suivant, si vous voulez, bah on va parler du remaniement. C'est pour quand?
Je vous ai décidé de m'emmerder.
Ça démarrait bien pourtant.
Ben oui.
C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour après les municipales. Voilà, il y a rien de pressé. Voilà, les municipales, c'est le 28 juin.
Bah, bon, mais
je vais après. Je vais remanier quoi le 29. Voilà, il y a pas d'urgence. Vous savez, Castaner, Yester et Sibeth vont pas me faire une connerie pendant la nuit du 28 au 29. Encore que, faut s'attendre à tout avec eux.
Merci, monsieur le président.
Vous
bon courage,
prie.
Alors. Voilà. Allez, encore un mot des municipales. À Lyon, un des alliés républicains de Gérard Collomb a traité les électeurs écologistes de connard. Bonjour Gérard Collomb.
Écoutez, il a raison. Ah bon? Moi je l'ai toujours dit, ce sont des connards les écolos. Hein, je le dis, les bouffeurs de quinoa, mais je les emmerde. Laissez-nous dire, régez Lyon tranquille. Hein, bande de bobos, je les attaque. De bobos qui ne vont même pas chez le coiffeur.
Oh, mais calmez-vous, monsieur Collomb.
Je sais, c'est violent.
Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez à ce point contre les écolos?
Non, mais même Julie, non, mais vous plaisantez. Non. Les écolos, vous savez quoi? Non, mais vous savez quelle est leur dernière lubie? Non, mais attention, bouchez-vous les oreilles. Ils veulent qu'on aime les animaux et les balades en forêt.
Alors.
Non, mais vous imaginez la violence de la chose. Je rappelle quand même, parce que tout le monde n'était peut-être pas né, mais autour de cette table. Mais je vous rappelle que Mussolini aussi aimait les balades en forêt.
Qu'est-ce que ça vient faire?
Vous voyez où ça nous mène? Oui. Hein? Bon, voilà.
N'importe
bon.
Quoi, là, allons.
Oui, c'est peut-être un raccourci. Mais vous savez, moi, en forêt, j'aime bien les raccourcis. Et puis, vous savez, les écolos sont hypocrites. Ça prétend lutter contre l'obsolescence programmée. Ah ça, l'obsolescence programmée, on entend parler. Hein? Et en même temps, moi, ça veut me jeter, alors que je peux franchement encore servir.
Alors, vous avez déclaré à Lyon Capitale, je suis toujours de gauche. Après, une alliance avec les Républicains, c'est quand même un petit peu étrange, non?
Non, mais pas du tout. On peut être...
Écoutez,
vous ne me prendrez pas en flagrant délit de contradiction. On peut être allié avec les Républicains et être de gauche. Hein, tout comme on peut aimer Emmanuel Macron et le détester à la fois. Mais oui, mais on peut, vous le savez, avoir 73 ans et être très jeune. On peut dire qu'on n'a aucun regret de quitter le poste de maire de Lyon.
et pleurait tous les soirs dans son oreiller.
Oh là là.
Mais ce ne sont pas des choses incompatibles. Alors, je le dis, hein, les connards des colos retournaient donc jouer au diabolo.
C'est une partition musicale. Ouais, ça c'est... chante, ça monte, ça
oui, j'ai... oui, voilà. Fin de saison, je trouve une nouvelle musique.
Allez, on n'en a pas encore parlé, mais sur Europe 1, dans l'émission d'Anne Roumanoff, Jean Lassalle a laissé entendre qu'il se représentera à l'élection présidentielle en 2022. Ah. Bonjour, monsieur Lassalle.
J'ai compris que l'on parlait de moi. Bonjour, madame Julie, bonjour, Julien. Bonjour à tout votre sympathique troupeau, madame Roche. Monsieur Lassalle, je ne vois pas tous, ils sont cachés ou sont-ils. Bon, voilà. Alors, oui, je pense que la France a besoin de bon sens, paysan, pour 2022. 2022, c'est l'important. Heureux, d'ailleurs, de l'avoir annoncé sur votre antenne. Je voulais le faire chez vous, monsieur Béliard. Mais il paraît que ce jour-là, vous receviez l'ancien footballeur Fabrice Fiorez pour son restaurant. Peut-être une petite acquaintance ou, je ne sais pas, peut-être une réduction. Je ne sais pas, bon, je m'incline, chacun ses priorités. Mais oui, donc, je reviens à mes moutons. Je me présente. D'ailleurs, j'invite tous les Français à me rejoindre sur Twitter.
Twitter,
c'est mon réseau social sur lequel je poste avec grand plaisir. Je ne cache pas ce plaisir que j'ai sur mon téléphone. Chaque jour, je poste une nouvelle photo de truie. Il est important que le citoyen ait l'accès à l'information de façon fluide.
Oh, d'accord. Allez, alors, vous avez sorti un livre qui s'intitule Aurore ou Crépuscule, résistons.
Voilà. C'est un livre qui a demandé, je dois vous le concéder, de ma part, une grande concentration et des efforts répétés.
Pour l'écrire, oui.
Non, pour éviter que les chèvres ne mangent les pages qui dépassent la machine à écrire. Vous savez comment c'est, il y a toujours ce bout de page blanche qui est très attirant pour une chèvre, vous savez. Oui, vous souriez, monsieur. Non, mais Cabrol sourit, mais peut-être lui ne le fait-il pas pour sa météo, mais moi j'écris dans mon étable. Ce n'est pas simple, dans la chèvrerie. Quand même. Alors, un jour, vous savez, j'ai une des limaces. Non. Et qui s'est glissé sous les touches de mon clavier. Je me suis rendu compte parce que je ne comprenais pas la ponctuation de ma lettre, il n'y avait plus de E. Elle était
coincée sous le E.
La touche du E, donc ça ne voulait plus rien
dire. Quelle histoire. Que,
allez écrire un texte sans E. C'est compliqué, vous savez. J'ai mis. Du coup, des semaines à achever ce bouquin. J'espère que vous allez l'acheter. Dans la première partie, vous savez qu'il y a mon programme. Ah. Et dans la deuxième, il y a toutes mes recettes de cuisine artisanale, comme des bonus, à base de bas morceaux. Ces bas morceaux qui sont négligés, qu'on ne consomme jamais, qui sont pourtant très goûtus.
C'est goûtu.
C'est du gâchis. C'est les rognons de musaraigne à la crépinette de placenta de jument frais. C'est très très bon.
Attendez, les rognons de musaraigne à la crépinette de placenta de jument frais.
Ouais, peut-être pas répéter.
Très très bon. Je vois que vous avez retenu le titre de la recette.
Oh, ben, je la fais ce week-end. Allez, merci.
Vous l'avez retenu, c'est très bien.
Merci.
Vous êtes une menteuse parce que je vous ai vu, vous l'avez lu aussi.
Allez, on passe à Jean-Jacques Bourdin maintenant qui recevait hier Didier Raoult, une interview houleuse, hein, le professeur ayant même menacé de partir, de quitter le plateau. On va faire un petit tour du côté de la matinale de Jean-Jacques Bourdin.
Oui, bonjour à tous, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC. RMC, Radio Mégalomanie et Chloroquine. Oh. Car oui, le professeur Raoult était mon invité hier, nous avons passé en boucle, un échange musclé. Et prends-en de la graine, Mathieu, prends-en de la graine. Au concours de la tête de cochon, il a trouvé à qui parler, ce monsieur Raoult. On va voir. Ce que vous avez pensé, vous, chers auditeurs, allez, viens, allez, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole et c'est Merci Christine. C'est René. René qui est avec vous. Bonjour René.
Ouais, salut Jean-Jacques. Bonjour. Oh putain, t'as rencontré Didier Raoult, putain.
Eh oui.
Putain,
eh
t'as,
oui.
T'as trop de la chance, hein. Waouh, la chance que t'as. Moi, je l'adore, Didier Raoult. Tu sais que j'ai peint son visage sur le capot du taxi, hein.
Oh là là.
Oh, pas trop gros, hein, mec, tu vois, 80 cm de haut, 60 de large. Hein, bien. Le gosse, tu sais que je lui ai tatoué Didier Raoult dans un cœur sur son avant-bras, tu vois, à la maison, on est tous fans. Hein. Ma femme, elle est enceinte, si c'est un garçon, je te dis direct, hein. On l'appelle Didier. Si c'est une fille, on l'appelle Chloroquine. Et sinon, dis-moi, Gégec, il est sympa, tu lui as parlé et tout.
Écoutez, oui. Calmez-vous, René. Savez, Didier Raoult, on en fait tout un foin. Ce n'est qu'un homme. Après, oui, c'est vrai que c'est un personnage, disons-le, intéressant. Bon, il aurait pu faire l'effort de s'habiller correctement et de se laver les cheveux, mais ça, c'est autre chose.
Ouais, non, mais attends, Gijac, tu sais s'il va revenir à la commission d'enquête devant les députés, là, tout le tout-team, là, parce que... Si tu pouvais m'avoir des places, j'aimerais bien, tu vois. Et moi, j'ai un peu surfé, j'ai pas trouvé sur Fnac.com là, tous les tickets plus des conneries. Là. En tout cas, moi, je veux des places. Hein. T'es pas trop. Carrément, ils t'ont fait un beau cadeau hein, pour ton pot de départ. Putain, mon salaud, face à Raoult, putain. Putain, moi, j'aurais eu les frissons. Hein.
Oui, attendez, René, je ne suis pas encore parti, René. N'allez pas plus vite en besogne que cela. Puis si on veut m'offrir un beau cadeau pour la fin de saison, je préférerais un punching ball pour me défouler ou faire tiens, une interview de Marlène Schiappa, c'est un peu pareil. Allez. Ah, vous m'en parliez, j'avais presque oublié, le départ.
Ah, ouais.
En même temps, tout fout le camp, René. Oui, René.
Ah. Oh là là.
Après toutes ces années, ça me manquait ce bon vieux temps. Et vous aussi, vous allez me manquer. Chers auditeurs, et oui, profite de ta matinale, Mathieu. Un jour, tu verras, tu regretteras ce studio étroit. L'odeur, parfois...
De quoi ?
Un peu prégnante de tes collaborateurs.
Ouais, ça va pas.
Proche. Tu regretteras aussi ton réveil qui sonne à 2h du mat. Profite, Mathieu, profite. Tu ne connais pas ton bonheur, mon ami.
Je profite. Il est 8h59. Merci Nicolas Canteloup, merci Julie. C'était la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Philippe Vandel est déjà là en studio avec nous. Culture Média, la matinée continue.
On sera avec Natou, la plus célèbre youtubeuse française, et puis Ludovic, autre youtubeur. 6 millions d'abonnés à eux deux. Ils lancent un nouveau programme sur Amazon, s'appelle True Story. Drôle et neuf. Et puis Michel Boujna, le patron du festival de Ramatuelle qu'il dirige, qui va être maintenu cet été alors que lui-même a été touché par le virus. Il nous racontera.
Philippe Vandel, c'est Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1.
C'est
le week-end, on revient lundi.
Oui, à partir de 5h avec Julien Pierce.
Je serai là à 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.
C'était Mathieu Béliard sur Europe 1.
Bon week-end.
Europe 1.